Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très importante concernant le pardon. Nous arrivons à l'étude numéro 3. Un des obstacles majeurs à l'épanouissement du chrétien, c'est le ressentiment. En refusant de pardonner, le chrétien se détruit lui-même spirituellement, moralement et physiquement. Cette vérité, qui occupe pourtant une place tellement importante dans la Sainte Parole de Dieu, est malheureusement trop souvent négligée. Que de vies, de foyers et d'églises sont ravagées par ce fléau. Sans aucun doute, l'esprit de pardon est le fondement d'une vie chrétienne heureuse et victorieuse, une condition indispensable dont nous essayerons de découvrir ensemble toute la portée au cours de ces exposés. Le Seigneur est très clair à ce sujet. Il nous révèle que pardonner n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il connaît nos erreurs, nos cœurs, nos difficultés dans ce domaine. C'est pourquoi il veut nous aider à expérimenter la puissance libératrice du pardon. Le pardon est réellement, on peut dire, la clé de nos relations avec Dieu et les hommes. J'ai pu me rendre compte maintes fois de ce grand très grand besoin dans l'Église. D'autre part, combien de fois j'ai pu me réjouir en voyant l'Esprit de pardon opérer des miracles, brisant les cœurs les plus durs, rétablissant les foyers désunis et changeant les situations les plus désespérées. En tant que témoin des merveilleux effets de la puissance du pardon dans ma vie, ainsi que dans la vie de nombreux chrétiens, j'ai pu m'imaginer l'impact que cela produirait si tous, oui, tous, nous commencerions à nous mettre à genoux, à saisir ce glorieux privilège de pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Il en résulterait certainement une action tellement puissante du Saint-Esprit qu'une multitude de vies seraient libérées, que des frères et sœurs seraient réconciliés, des corps seraient guéris, des âmes seraient sauvées. L'Église retrouverait son premier amour et le Seigneur serait souverainement glorifié. Puisse notre Dieu trouver en nous un peuple assoiffé de lui, être agréable, assoiffé de ressembler à Jésus-Christ, qu'il nous a donné un exemple, afin que nous puissions suivre ses traces. Corrie Ten Boom, une célèbre missionnaire bien connue, nous raconte dans un de ses livres comment la haine entra dans son cœur quand elle fut trompée et trahie par un homme pendant la guerre. Suite à cette trahison, toute sa famille fut arrêtée et condamnée à mort. « Quel privilège pour moi, écrit-elle, de savoir comment il fallait agir à l'égard de la haine qui envahissait mon cœur. » La parole de Dieu dit que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, selon la première épître de Saint Jean, chapitre 1, versets 7 et 9. J'ai donc apporté ma haine à Jésus, et il me pardonna et me purifia par son sang précieux. Après la guerre, le traître de ma famille fut condamné à son tour à mort. Je lui ai écrit une lettre en ces termes. C'est ce que continue de témoigner Corrie Ten Boom. Elle écrit « Votre trahison a été la cause de la mort de mon père octogénaire, de mon frère et de son fils, et de l'emprisonnement de ma sœur. J'en ai beaucoup souffert, mais je vous ai tout pardonné. Un petit exemple du pardon et de l'amour de Jésus. C'est lui, Jésus-Christ, qui vit maintenant dans mon cœur, et c'est pourquoi je peux vous pardonner. Jésus entrera aussi dans votre cœur et fera de vous son enfant. Si vous lui confessez vos péchés, sur la croix du calvaire, il a payé la dette de tous vos péchés et ainsi aussi les miens. » Plus tard, voyez-vous, eh bien, cet homme a répondu à Corrie Ten Boom et voici la lettre. J'ai prié Jésus, si tu peux mettre dans le cœur de l'un de tes disciples un tel amour pour son ennemi terrible, alors il y a un espoir pour moi. Je lui ai vraiment confessé mes péchés. Maintenant je sais que je suis aussi un enfant de Dieu purifié par le sang de Jésus. Et Corrie Ten Boom de continuer, c'est ainsi que Jésus a pu m'utiliser pour sauver l'âme de l'homme que j'avais tant haï. Eh bien, ce même jour, le prisonnier envoya aussi un message à sa femme en lui écrivant « Pardonne-moi de tous mes crimes. Certes, qu'au moins, tu n'en as pas la force, mais c'est Jésus qui l'a, cette force-là. Si nous ne voulons pas pardonner, nous ne serons pas pardonnés nous-mêmes. » Il y a donc quelques années, un couple a eu la profonde douleur de perdre sa fille dans un accident terrible. La jeune fille fut tuée sur le coup par un motocycliste qui venait de brûler un feu rouge en fuyant la police. Le lendemain, un journaliste demanda au couple quels étaient leurs sentiments à l'égard de l'homme qui avait tué leur fille. Les larmes aux yeux, le père lui dit « Oh, nous avons choisi de lui pardonner après avoir prié notre Sauveur et Seigneur. Dieu a aimé Jésus, son Fils unique, autant que nous avons aimé notre fille. L'humanité a tué Jésus et cependant Dieu nous a pardonnés. Ainsi nous pardonnons nous aussi à celui qui a tué notre fille. Nous ne pouvons agir autrement en contemplant l'amour de Dieu pour nous. Quel prisonnier ne serait pas rempli de haine après plusieurs mois d'emprisonnement injuste dans une cage à l'intérieur d'une sombre cave? Cependant, voyez-vous, le docteur Claude Fly a triomphé d'une telle expérience par un esprit d'amour et de pardon. Le docteur Fly a été kidnappé par erreur par des rebelles uruguayens qu'il avait pris pour un espion. Après avoir été libéré, le docteur raconta comment il s'était comporté durant sa captivité. Il avait passé tout son temps à prier et à étudier la Sainte Bible. En parcourant le Nouveau Testament, il avait dressé une liste de 90 exhortations auxquelles un chrétien devrait obéir et 70 choses à éviter. Il avait pris des notes telles que « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Saint Luc chapitre 6, versets 27 et 28. Puis, il avait cherché à mettre en pratique ce qu'il avait lu. Les résultats d'un tel esprit furent donc tels que ses ravisseurs furent touchés par sa bonté à toute épreuve et finalement l'ont relâché. Il n'y a rien d'aussi beau et en même temps, hélas, d'aussi rare que la véritable, ou plutôt le véritable pardon chrétien. Ces différents témoignages nous révèlent la réalité et la puissance du pardon. Toutes ces personnes, on peut bien le dire, méritent sans aucun doute notre admiration. D'autre part, nous devons reconnaître à notre confusion qu'elles réalisent quelque chose que peu de personnes connaissent vraiment, la beauté et la puissance libératrice du pardon. Mais ces exemples nous montrent aussi que même dans les situations les plus tragiques et les circonstances les plus douloureuses, nous pouvons pardonner. Oui, nous le pouvons si nous le voulons. Pensons à l'agonie d'Étienne en train d'être lapidé de cet homme plein de grâce et de puissance qui avait bouleversé tout Jérusalem par des signes et des miracles. La puissance de son témoignage souleva une telle réaction parmi ses adversaires qu'en entendant ses paroles, ils furent remplis de fureur et grincèrent des dents contre lui et cherchant finalement à le lapider. Mais lui, alors qu'on le tuait à coups de pierre, rempli du Saint-Esprit et priant, il a eu une vision du ciel et il a vu Jésus debout à la droite de Dieu et il s'est écrié d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » L'extraordinaire esprit de pardon coulant à flot de son sein comme un terrain ébranla le fameux géant, c'est-à-dire Saul de Tarse. Il n'avait jamais encore vu une telle manifestation de l'amour de Dieu. Mais pensons surtout à l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque il était cloué sur la croix au prix sublime qu'il a dû payer pour nous faire pardonner. Lui, l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache, saint, innocent, séparé des pécheurs, oui, le Fils de Dieu, le parfait, il a souffert une fois pour les péchés, lui, le juste pour nous injustes, car nous étions et nous sommes injustes, afin de nous amener à Dieu. N'oublions pas que la crucifixion était la plus cruelle des morts en ce temps-là. L'histoire nous rapporte que beaucoup de criminels sont restés suspendus toute une semaine sur la croix jusqu'à ce qu'ils meurent dans la démence. Aucun artiste n'a osé traduire exactement la scène du calvaire comme elle a dû se dérouler en réalité. Elle aurait été trop répulsive et surtout pour nous qui sommes des natures sensibles. Imaginons un peu cette scène. La couronne d'épines est brutalement enfoncée sur sa tête, non avec douceur, pas du tout, mais brutalement. Des épines sans nombre blessent son crâne et font jaillir son sang qui coule le long de son visage. Du sang partout, il coule de ses mains et de ses pieds cloués à la croix, de son côté percé par une lance, et tout ce sang se répand par terre. Il est comme de l'eau qui s'écoule de tous ces os qui se séparent. C'est ce que nous dit du reste le psalmiste. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, insiste le prophète Ésaïe. Tous ceux qu'il regarde ne voient donc que du sang, son dos lacéré par 39 coups de fouet et aussi couvert de sang. Au pied de la croix, il n'y a que du sang. Aussi n'est-il pas étonnant qu'il s'écrie dans l'agonie de son âme, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, nous avons été rachetés à un grand prix. Seule la vie sainte et innocente de Jésus, livrée en sacrifice volontaire sur la croix, a pu payer le prix de notre rachat. Maintenant, nos péchés sont pardonnés. Il a donné sa vie pour sauver la nôtre. Sa mort nous donne la vie. Écoutez les paroles immortelles de notre Sauveur à la croix. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En ces mots-là, on triomphait à tout jamais de la haine, oui, de la haine, de l'injustice et de la violence des hommes. Il a parfaitement et définitivement payé le prix. Pardonner, ne pourrions-nous pas, à notre tour, chers amis, pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, quel qu'en soit le prix? Pourquoi pas, chers amis? Nous sommes appelés à pardonner comme Dieu nous a pardonnés en Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 4, verset 32. Pour pouvoir répondre intégralement à cet appel, il est donc indispensable de saisir jusqu'où va ce pardon de Dieu. Les Saintes Écritures nous donnent une variété de mots qui nous en révèlent la portée. Considérons ensemble cinq aspects différents de ce pardon. Premièrement, pardonner, c'est libérer, c'est être libéré. Le mot grec pour pardonner, apaimi, signifie éloigner de, signifie faire disparaître et de libérer, selon Saint Matthieu, chapitre 6, versets 12 à 15. Quand Dieu nous pardonne, il fait disparaître nos péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume chapitre 103, verset 12. Si en pardonnant nous considérions l'offense comme si elle n'avait jamais existé, nous n'aurions pas à tenir des comptes des fautes du prochain. Chaque nouvelle offense serait la première, puisque les précédentes auraient totalement disparu. De cette manière, notre pardon serait aussi illimité que le pardon de Dieu à notre égard. Deuxièmement, pardonner, c'est être également purifié. En effet, le mot grec pour purifier signifie purger et rendre propre. Un deuxième mot qui nous révèle le sens du pardon dans l'Ancien Testament, c'est le mot hébreu correspondant qui est utilisé pour décrire la purification du corps. La purification également de nos vêtements, des ustensiles et des maisons. La pensée est donc très claire. Tout doit être purifié pour être propre. Voyez-vous, dans le Nouveau Testament, le mot grec est employé pour la purification d'un lépreux. Notez Saint Matthieu, chapitre 8, verset 3. Le même mot est également employé pour la purification de nos péchés par le sang de Jésus. La première épître de Saint Jean nous enseigne « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Lorsque nous confessons nos péchés, nous sommes plus qu'exaucés. Nous sommes débarrassés de notre péché, purifié de sa souillure, comme le lépreux dont la peau est purifiée et qui retrouve une peau normale et saine. Quand Dieu pardonne, nous sommes entièrement purifiés. Dieu ne peut et ne veut avoir de communion avec un être souillé. Troisièmement, pardonner, c'est être justifié. Eh oui, le mot grec pour justifier, cela signifie être considéré comme innocent. Encore un mot qui est directement en rapport avec le pardon. La justification définit la nouvelle position de l'homme par rapport à Dieu. C'est donc un changement radical de ses relations avec lui. Selon le langage des Saintes Écritures, cela veut dire être légalement déclaré innocent ou juste, selon Romains, chapitre 3, verset 26. La justification ne concerne pas directement le caractère ou la conduite d'une personne, mais seulement sa culpabilité et sa condamnation. Quand Dieu pardonne, nous pensons donc aussi à notre position légale devant lui. Il y a plus, on peut dire, il n'y a plus du tout, on peut dire, un iota de la loi pour nous condamner. Plus, il n'y a plus rien, car Christ, il a lui accompli la loi et est devenu notre justice, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Nous avons été justifiés, déclarés innocents par Jésus-Christ. Désormais, nous pouvons nous présenter devant Dieu comme Jésus se présente devant son Père, sans aucun sentiment de culpabilité, d'infériorité et de crainte. Romains, chapitre 8, verset 1. Gloire soit rendue à Yahvé l'Éternel. Quatrièmement, pardonner, c'est aussi naître de nouveau. Et oui, le mot grec pour cette naissance signifie engendrer et régénérer. La nouvelle naissance est une autre expression biblique étroitement liée avec le pardon. Elle est plus spécialement employée dans l'évangile de Jean et dans la première épître de Pierre. En parlant à Nicodème, Jésus a dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Saint Jean, chapitre 3, verset 3. Devant la perplexité de Nicodème, Jésus souligne cet impératif « Il faut naître de nouveau. Il faut naître de l'Esprit Saint. » Saint Jean chapitre 3 verset 6 et 7. L'apôtre Pierre répète ces mêmes paroles aux premiers chrétiens. Vous avez été régénérés, dit-il, voici le mot grec, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, c'est-à-dire par la sainte parole vivante et permanente de Dieu. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 23. L'image est donc frappante. Le péché nous a tellement défigurés, déformés, faussés et pervertis qu'un pardon superficiel aurait été insuffisant. Nous avions besoin de recommencer à zéro. Nous avions besoin d'être régénérés, d'avoir la conscience libérée de toute culpabilité. Quand Dieu pardonne, il fait de nous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Quel merveilleux pardon, n'est-ce pas? Et cinquièmement, eh bien, pardonner signifie aussi être réconcilié. Le mot grec pour réconcilier signifie rétablir les relations entre l'homme et Dieu. Initialement, cette expression était utilisée pour échanger de l'argent et plus tard pour changer l'hospitalité en amitié. Romains chapitre 5. Verset 10. C'est l'homme et non Dieu qui avait besoin d'être réconcilié. Le péché n'a jamais atténué l'amour de Dieu ou changé cet amour en haine. Ce n'était pas Dieu qui avait besoin d'être apaisé, mais c'est l'homme qui avait besoin de passer de l'état de rébellion à un état de repentance afin de recevoir l'amour de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 et 19. Voyez-vous, quand Dieu pardonne, son but est avant tout de rétablir la communion rompue par le péché de l'homme. Il n'a pas envoyé son Fils Jésus dans ce monde uniquement pour sauver l'homme de l'enfer ou encore de la condamnation éternelle, mais aussi pour le réconcilier avec lui, c'est-à-dire faire de son ennemi son ami. L'homme retrouve ainsi la relation d'amour avec Dieu que Adam possédait déjà dans le jardin d'Éden. La vérité primordiale se dégageant de ces différents aspects du mot « pardon » est simplement que Dieu, il veut et il désire ardemment pardonner. C'est l'expression la plus naturelle de son amour. Nul n'a besoin de quémander le pardon de Dieu, car la nature même de Dieu est vraiment de nous pardonner. Cependant, ce pardon ne peut être accordé à moins qu'il y ait une sincère repentance de notre part. Ça, c'est la moindre des choses. Cette repentance n'est pas un simple regret de nos péchés, pas du tout. Le verbe « se repentir » veut dire « changer sa façon de penser et de vivre ». Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Ésaïe 55, verset 7. Notez l'ordre des choses. Un homme doit abandonner son péché avant que Dieu ne lui pardonne. La repentance comprend deux choses. D'abord, se détourner de son péché, et ensuite, de tourner vers Dieu. Se détourner seulement de son péché n'est que une réformation, c'est-à-dire c'est un effort de l'homme de s'améliorer, et non pas une repentance véritable. Se repentir, c'est donc non seulement désirer que notre passé soit pardonné, mais aussi de vouloir que sa propre vie soit désormais entièrement transformée et consacrée à Dieu. Quand Dieu pardonne, il fait disparaître nos péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Nous sommes entièrement purifiés et considérés comme justes à ses yeux. Nous devenons donc une nouvelle créature, entièrement régénérée, rétablie dans cette communion que nous devons avoir avec Dieu notre Père. Gloire à Dieu pour son pardon libérateur. Oui, le pardon libère également de la culpabilité. La solide porte d'acier se referme et le prisonnier se trouve seul dans une étroite cellule souterraine, on peut dire en Amérique latine, dans un lieu sordide. Les paroles du gardien résonnent encore à ses oreilles. « Entre ici, nous reviendrons te chercher dans 50 ans. » Oh là là, ce n'était pas un cauchemar. Ce prisonnier avait été un juge bien connu d'affaires criminelles, pas n'importe qui. Il jouissait auparavant de tout ce que l'argent, l'honneur et les plaisirs du monde pouvaient lui offrir. Du reste, sa philosophie dans la vie était « Si tu aimes quelque chose, eh bien fais-le. Si tu désires une chose, ne t'en prive surtout pas. » Ce fut la soif d'une vie de débauche et d'aventure qui le conduisait littéralement, finalement, à la déroute totale. Trafic de drogue, d'armes, attaques de banques, fraude fiscale. Il frappait avec les plus grands criminels. C'est-à-dire, il avait des relations qui étaient plutôt peu recommandables, pour ne pas dire épouvantables. À 40 ans, alors que sa carrière professionnelle était florissante, voilà qu'il fut arrêté vendant de la drogue et il fut condamné à 50 ans de prison, plus encore beaucoup d'autres charges. Tout était donc perdu pour lui. Sa femme et ses deux petits-enfants restèrent seuls. Les murs de la prison étaient sales et dégoûtantes. La cellule était sombre et humide. Notez et n'oubliez pas que ça ne se trouvait pas dans un pays d'Europe, mais dans un pays d'Amérique latine des plus sordides. Parfois, le bruit des serrures dans le corridor rompait le silence et l'on entendait les cris d'un prisonnier hurlant jusqu'à la folie avant d'être précipité dans sa cellule. Dépouillé de tout et abandonné de tous, le prisonnier se sentait comme enterré vivant dans une fosse puante. Un jour, accablé de douleur et de chagrin, il tomba à genoux sur le sol froid. Comme un enfant, il sanglota et il cria au Dieu. « Je ne sais même pas si tu existes, mais si tu es là et que tu m'écoutes, je regrette sincèrement tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Si tu veux me pardonner et me donner une autre chance, une deuxième chance dans ma vie, eh bien, je donnerai toute ma vie qui me reste, tout ce que j'ai, absolument tout, pour uniquement te servir pour toujours. » Les ténèbres demeurèrent silencieuses, mais quelque chose venait de se passer. La crainte et l'angoisse l'avaient quitté. Il fut rempli d'un sentiment extraordinaire. Il savait qu'il était pardonné et aimé. De chaudes larmes de reconnaissance commencèrent à couler sur les joues du prisonnier. Il se sentait enveloppé par de puissants bras d'amour, comme un petit garçon venant à son père pour lui demander pardon. Dès lors, la cellule n'était plus un lieu de solitude et de désespoir. Le désir même de s'en aller l'avait totalement quitté. Jamais je ne me suis senti aussi libre et aussi heureux, disait-il plus tard. Et je remercie le Seigneur de tout cœur de m'avoir amené jusqu'en ce lieu épouvantable pour le rencontrer. Et 2 ans plus tard, écoutez bien, il a pu sortir de prison, car le gouvernement venait de lui faire grâce. Il y a eu un nouveau gouvernement avec un nouveau président qui lui a fait grâce. Il était donc devenu libre et pouvait retrouver sa femme et ses enfants qui vivaient, écoutez bien, dans la misère totale, tout près de là. Comment cet homme a-t-il pu expérimenter une telle libération de sa culpabilité? Il n'y a qu'une seule réponse, c'est le pardon. C'est le pardon. Il réclama sincèrement le pardon de Dieu et Dieu lui a remis le pardon pour toute sa vie gâchée qu'il avait commise. Notez bien, chers amis, que la culpabilité, c'est la désobéissance de l'homme. Il y a bien des méthodes dans ce monde pour essayer de libérer l'homme de sa culpabilité. Mais le seul chemin de la véritable délivrance, c'est bien entendu le pardon de Dieu. Le pardon est la clé de toutes nos relations avec Dieu. Personne ne nous connaît beaucoup mieux que notre Créateur, personne. Il sait que nous l'avons abandonné et que notre désobéissance nous sépare de lui. Il soupire après le rétablissement des relations rompues. Il sait également qu'il se peut et qu'il ne peut compter sur quelques actions méritoires de notre part, et c'est pourquoi il a décidé d'agir il y a bien longtemps, laissant son propre Fils Jésus-Christ mourir à notre place sur la croix. Il a payé la dette de nos péchés. Et maintenant, le pardon de Dieu nous est accordé, nous est accessible. Oui, pardonner, cela signifie renoncer à nos droits moraux envers quelqu'un qui nous a offensés. Or, devant Dieu, nous sommes ses offenseurs. Et à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, Dieu a renoncé au paiement de notre dette par nous-mêmes. Il n'a plus rien contre nous. Gloire à Dieu. Cela semble si simple, et pourtant, nous n'en saisissons pas toujours la pleine portée. Si c'était une réalité vivante en nous, nous serions au comble de notre joie et de notre gratitude pour le restant de notre vie. Alors pourquoi ce fréquent manque d'enthousiasme? Il faudrait d'abord reconnaître que nous sommes tous coupables devant Dieu. Or, pour être humain, il n'y a rien de plus difficile que d'admettre. Pourquoi ne pas essayer d'admettre qu'il n'y a rien de bon en nous et que nous sommes incapables de faire le bien? Romains chapitre 3, versets 10 à 12. Voyez-vous, notre orgueil nous en empêche. Nous cherchons à faire, on peut dire, à tout faire nous-mêmes. Et alors, nous nous égarons dans nos problèmes jusqu'à ce que la situation devienne inextricable. Et même, arrivé là, nous résistons encore à la solution que Dieu nous offre en disant « Je suis honteux de venir à Dieu comme un mendiant ». Attendons encore un peu jusqu'à ce que je sorte de ce pétrin. Mais sommes-nous toujours assez sincères pour être libérés de la culpabilité? Une confession superficielle ne suffit pas. Nous prétendons, bien que nous regrettons ce que nous avons fait, mais nos actions contredisent nos paroles. Ce qui manque à un tel ou à une telle confession, c'est l'abandon complet de notre volonté pour faire celle de Dieu. Qu'aurions-nous pensé du fils prodigue s'il avait seulement regretté ses fautes sans jamais revenir vers son père pour lui demander pardon? Hors de nos jours, de nos jours, beaucoup de gens prennent cette attitude et de ce fait sont malheureux. Ils regrettent amèrement leurs fautes et se lamentent sans cesse de leur culpabilité, mais ils rejettent le pardon de Dieu. Judas, rappelez-vous, était un de ceux-là. Il regretta sa trahison en essayant de rendre les 30 pièces d'argent, mais cette restitution ne l'a pas libéré et sa culpabilité l'a conduit au suicide. Il n'a jamais entendu les paroles de Jésus sur la croix quand il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Saint Luc chapitre 23, verset 34. chers amis, êtes-vous écrasés à un tel point par votre culpabilité que vous cherchez à vous détruire? Les psychiatres nous affirment qu'une culpabilité non résolue produit des sentiments d'autodestruction, que ce soit par le suicide ou par l'alcoolisme ou par la drogue. Nous penserons peut-être que nous ne méritons plus le pardon de Dieu et que nos péchés sont trop affreux pour qu'il nous accepte encore. Nous pensons que Dieu ne veut pas nous pardonner, alors qu'en vérité, c'est nous qui refusons son pardon. Je répète, nous pensons que Dieu ne veut pas nous pardonner, alors qu'en vérité, c'est nous qui refusons son pardon. Imaginons le fils prodigue venir à son père et de lui dire « Père, j'ai péché, pardonne-moi ». Sans même attendre sa réponse, il répète encore « Père, j'ai péché, pardonne-moi ». Et cela chaque jour, n'acceptant jamais le pardon de son père, alors que celui-ci lui avait déjà pardonné d'emblée. Selon la promesse du Seigneur, nous pouvons et nous devons croire avec assurance qu'au moment où nous confessons et abandonnons un péché, Dieu nous pardonne instantanément. Ce péché n'existe désormais plus à ses yeux. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est écrit dans la première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Voyez-vous, le comportement de l'homme religieux est beaucoup plus subtil. L'homme religieux admet ses fautes et accepte même le pardon de Dieu. Mais il compte tout de même sur ses propres possibilités pour payer la dette de ses péchés. Car par nos propres efforts, nous nous glorifions nous-mêmes et nous déshonorons l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. Il n'y a pas de plus lourd fardeau dans ce monde que d'essayer de porter la peine de ses péchés. Tant que nous ne le ferons pas, tant que nous n'expérimenterons jamais le pardon libérateur de Dieu, nous n'avons aucun espoir. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Saint Matthieu, chapitre 11, verset 28. Quelle extraordinaire libération de la culpabilité lorsque nous acceptons le pardon gratuit de Dieu. Seul un cœur pardonné peut comprendre l'amour de Dieu. Quelle joie pour celui dont les péchés sont pardonnés. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Psaume, chapitre 32, verset 1. Pour terminer, j'aimerais juste vous dire, bien que j'ai maintenant atteint le grand âge de 89 ans, eh oui, eh bien, vous savez, je n'ai aucun mérite de ce que je fais, mais ce que je fais, je ne le fais surtout pas pour essayer de payer en quelque sorte pour mes manquements du passé. Certainement pas, parce que le Seigneur me l'a fait comprendre par l'Esprit Saint. C'est lui qui a tout payé pour moi, comme il l'a fait également qu'il a tout payé pour vous. Donc, j'ai simplement compris qu'il n'était pas défendu de vouer sa vie pour le servir, pour que des âmes puissent être sauvées d'une façon ou d'une autre. Moi, depuis quelques années, eh bien, je suis un peu la voix qui crie dans le désert, qui parle sur des CD. Et en faisant cela, j'essaye de simplement contribuer en quelque sorte pour démontrer l'amour, être esclave d'amour pour mon Sauveur et Seigneur, esclave d'amour pour mon Sauveur et Seigneur, et pour que des âmes puissent être sauvées. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné dans le cœur de le faire jusqu'à ma mort. Bon, il m'a traîné en avant jusqu'à 89 ans, et quand il désirera que ça s'arrêtera, évidemment. Je voudrais juste vous relater une chose qu'il y a environ 70 ans, oui, même plus que 70 ans. Donc, en ce temps-là, j'étais dans un petit hameau de village qui s'appelait Échalon, dans le canton de Vaud, en Suisse. Et mon oncle, c'était, je l'appelais l'oncle Daniel. Un jour, en été, je devais donc aider pour les moissons. C'était très pénible et j'étais un gamin. Surtout que je venais d'avoir été entre la vie et la mort d'une jaunisse qui m'a presque mené à la mort, puisque je suis tombé à 36 kilos. C'était épouvantable. Bref, alors l'oncle Daniel a trouvé que je ne travaillais pas assez vite. Je ne sais pas pourquoi il a pensé cela. Peut-être avait-il besoin de me corriger de quelque chose d'avant, va savoir. Il m'a donné un coup de pied tellement terrible dans le milieu du derrière que j'ai cru que j'allais mourir. Et j'ai hurlé de douleur. Et j'avais de la haine pour cet homme. Ensuite, j'aurais bien aimé le tuer, mais j'étais beaucoup trop faible pour faire une chose pareille. Mais, tout de même, ça se trouvait dans mon cœur. Et ça suffit de faire de vous un criminel, même si vous n'avez pas la capacité de le concrétiser. Et pour se venger, quand c'est l'automne qui est arrivé, qu'il a fallu planter des petites pommes de terre pour dans le champ, pour pouvoir faire que tout le champ puisse avoir après un champ correct de pommes de terre. J'ai vidé tout le sac de pommes de terre dans un trou et je suis parti parce que c'était midi pour aller manger, pour aller donc me reposer encore un petit moment. C'était ma vengeance. Eh bien, beaucoup plus tard, je me suis repenti de cela. Malheureusement, j'ai pas pu le dire à mon oncle Daniel, parce qu'entre-temps, le Seigneur l'a repris chez lui. C'était un homme de Dieu. Et je me suis repenti amèrement. J'ai demandé pardon au Seigneur. Et il m'a pardonné. Voyez-vous, le pardon est possible, même pour les choses qu'il y a eu, passé 70 ans. Le pardon est toujours encore aujourd'hui possible parce que le Seigneur a payé à la croix pour nous. Chers amis, nous allons maintenant prier ensemble, si vous le voulez bien, et que le Seigneur puisse nous bénir pour une prochaine étude demain matin, Dieu voulant. Notre Père, maintenant que nous savons que c'est notre désir et notre devoir de nous préparer pour être prêts pour te rejoindre dans l'éternité, viens à notre aide aussi, viens au secours des hommes d'aujourd'hui et fais jaillir en nous ton esprit pour nous transformer et nous renouveler. Que ta recherche, que ta soif de toi aille en s'intensifiant toujours dans l'humanité du siècle présent. Que ta puissance et l'impétuosité de ton Esprit Saint nous remuent, nous saisissent, nous entraînent tous. Envoie-nous la vérité et la liberté, la force et la lumière. Que ta volonté s'accomplisse en nous, et s'il le faut, malgré nous, dans l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Et chers amis, Dieu voulant, à demain matin pour la suite. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse richement.